Julie Daché, on va parler de Julie Daché. Julie Daché, elle est docteure en psychologie sociale, elle est conférencière et militante française pour les droits des personnes autistes. Elle est l'auteur de La différence invisible et du livre Dans ta bulle. Elle a été diagnostiquée autiste à 27 ans. Elle travaille depuis quelques temps sur le genre dans l'autisme. Ma maison bleue, dans le cadre de ce mois de l'autisme, oui, c'est ce son dont on parle aujourd'hui sur Radio MDM, l'a invitée à venir faire une conférence sur ce thème intitulé tout simplement Autisme et genre. Ce sera le 4 avril à 19h30 à la Chambre de commerce et de l'industrie des Landes. C'est avenue du Maréchal Foch. On retrouve tout de suite Julie Daché.
Bonjour Julie Daché.
Bonjour.
Pourquoi le genre est-il important dans l'autisme?
Alors, il est important pour deux raisons. Déjà parce que l'autisme se présente différemment chez les femmes autistes, ça il me semble qu'on va y revenir, et il est important aussi parce qu'il y a une co-occurrence forte entre l'autisme et la transidentité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes trans parmi la population autiste, en tout cas plus que parmi la population non autiste, et donc il faut pouvoir connaître ces spécificités et mieux accompagner les personnes, à la fois les femmes autistes et à la fois les personnes autistes trans.
La façon donc de vivre son autisme, c'est très différent pour une femme. Et quelle est cette différence en fait?
Alors effectivement, depuis quelques années, les chercheurs travaillent à définir ce qu'ils appellent le phénotype de l'autisme au féminin, c'est-à-dire le profil de l'autisme au féminin. Chez les femmes, c'est un petit peu différent parce qu'elles ont une plus grande motivation à nouer des amitiés. Elles vont avoir tendance à internaliser leurs difficultés, développer par exemple de l'anxiété, de la dépression, des troubles alimentaires, là où les petits garçons vont être plus impulsifs ou hyperactifs. Elles vont avoir aussi moins de comportements répétitifs et des intérêts spécifiques qui vont être plus socialement acceptables. Par exemple, là où un petit garçon s'intéresse au plan de métro, une petite fille se prendra de passion pour les chats ou les chevaux et ça va moins susciter l'étonnement de son entourage. Et en plus de ça, les petites filles et les femmes autistes, elles ont une grande capacité à camoufler leurs difficultés. Donc elles vont imiter le comportement des autres et donc passer inaperçues. Donc pour toutes ces raisons, il semblerait effectivement que l'autisme se présente différemment, se présente de façon un petit peu plus subtile chez les femmes.
Et donc ça se voit moins en fait, c'est ça l'idée?
Exactement, ça se voit moins.
Et quel est l'impact alors sur le diagnostic?
Alors, l'impact, il est très important, à la fois parce qu'il y a donc ce profil féminin spécifique et aussi parce que les critères diagnostiques de l'autisme ont été établis à partir de l'étude de cas masculins. Donc on a observé des petits garçons et on s'est dit, bah tiens, ce qui revient c'est ça, donc les critères diagnostiques de l'autisme, ça sera ça. Donc, on voit bien là, il y a un biais de genre qui exclut de fait les femmes autistes. Donc à la fois, il y a ce profil féminin spécifique et des critères diagnostiques de l'autisme qui ne sont pas adaptés aux femmes. Donc forcément, ça va entraîner des retards de diagnostic, des absences de diagnostic, des diagnostics erronés, c'est-à-dire des femmes qui vont être diagnostiquées bipolaires ou avec un trouble de la personnalité borderline, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, hein, c'est une erreur. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi une autre raison pour laquelle les femmes autistes sont moins diagnostiquées ou diagnostiquées plus tardivement. C'est ce qu'on appelle, ce que les chercheurs ont appelé l'effet protecteur féminin. C'est-à-dire qu'il semblerait que chez les individus ayant deux chromosomes X, il faudrait une sorte de surcharge génétique pour développer l'autisme. Donc en fait, il faudrait que les filles, les femmes autistes aient une surcharge génétique pour être autistes. Donc il y a ces deux pistes d'explication qui contribuent à expliquer cette différence de diagnostic entre hommes et femmes autistes.
C'est-à-dire que peut-être les symptômes, je ne sais pas comment c'est les symptômes qu'on dit, mais peut-être que en fait c'est moins prégnant, on peut plus facilement vivre en étant autiste femme qu'autiste homme, c'est ça que vous voulez dire?
Ouais. Alors donc moi je ne parle pas effectivement de symptômes, mais je parle plutôt de caractéristiques. Et alors, je ne dirais pas que c'est plus facile pour les femmes autistes, c'est juste que leur autisme se présente différemment et qu'il est plus subtil. Et pour en revenir au vécu des femmes autistes, au contraire, c'est pas plus facile parce qu'elles vivent des choses qui sont spécifiques à leur genre, comme des violences sexuelles, par exemple, qui sont pour l'instant très peu visibilisées et donc elles sont mal accompagnées dans leurs difficultés.
Dans cette conférence, on va parler aussi de mal accompagnement, certainement. Dans cette conférence que vous allez faire le 4 avril à Mont-de-Marsan, vous allez aussi aborder la question des transgenres. on en a parlé un petit peu en introduction, selon des recherches, vous dites qu'il existe plus de personnes trans parmi les autistes que parmi les non-autistes. Qu'est-ce que ça fait pour ces personnes et comment on pourrait mieux les accompagner ?
Effectivement. Alors, dans la population générale, on estime qu'il y a entre 0,4 et 0,7% des personnes qui sont trans. Dans la population autiste, ce chiffre, c'est pas, bon, on n'est pas encore tout à fait certain, mais en tout cas, pour l'instant, on est entre 4 et 5%. Hein, donc, c'est beaucoup plus que dans la population générale. Qu'est-ce que ça implique pour ces personnes ? Ça implique d'être à l'intersection de deux minorités opprimées. Donc, non seulement on est, ce qui est difficile, d'être autiste dans un monde de non-autistes, mais en plus de ça, on est trans avec la transphobie ambiante et tout ce que ça suppose en termes de discrimination, préjugés, etc. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins. On est invisibilisé, on est mal pris en charge, mal accompagné. Et par exemple, j'entends beaucoup de témoignages de personnes autistes qui, au moment d'entamer les démarches pour transitionner, que ce soit la volonté de prendre un traitement hormonal ou de faire une chirurgie, ne sont pas prises au sérieux dans leur parcours de soins parce qu'on va leur rétorquer « Mais écoutez, vous êtes autiste, donc comment vous pouvez savoir, comment vous pouvez avoir conscience de votre identité de genre ?» Donc, leur parole, elle est remise en question, ce qui n'est ni plus ni moins que de la discrimination. Donc, ça, c'est un vrai problème et il est important de mieux accompagner ces personnes, notamment en leur permettant l'accès à une transition parce qu'on sait aujourd'hui que ce soit les jeunes ou les adultes, accéder à une transition, permettre à la personne vraiment d'exprimer son identité de genre, c'est un facteur de protection pour sa santé mentale. Et à l'inverse, les jeunes et les adultes qui ne peuvent pas exprimer leur identité de genre vont souffrir de dépression, d'anxiété, d'idées suicidaires. Donc les approches qu'on appelle approches transaffirmatives, qui permettent à la personne d'exprimer, d'explorer son genre, sont très importantes.
Et donc la formation pour des associations qui aident déjà des transgenres sur l'autisme est aussi importante, j'imagine.
Oui, c'est très important de pouvoir connaître à la fois ce qu'est l'autisme et aussi ce qu'est la transidentité pour mieux accompagner ces personnes.
J'imagine que vous allez aborder tous ces sujets bien plus largement et longuement ce mardi 4 avril. On ne va pas dévoiler toute votre conférence. J'ai juste une dernière question. Quel est le cliché qui vous énerve le plus à propos de l'autisme ?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de cliché, mais en tout cas, ce que je trouve agaçant et problématique, c'est à chaque fois que le terme autiste est utilisé comme une insulte ou comme un terme dégradant, un peu comme ces politiciens qui se défendent d'être autistes, comme M. Fillon avait pu le faire à l'époque. C'est un vrai problème et ça perpétue une image dégradante à notre égard. À notre égard, ça contribue à cette idée que l'autisme, c'est une tare, quelque chose de peu enviable. Et ça, vraiment, ça me gêne parce que les mots construisent notre réalité et c'est important de faire attention à ce qu'on dit et à la façon dont on le dit.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Quand on a un collègue ou un ami qui a l'air un peu trop dans sa bulle, qui n'écoute pas les autres, on le traite d'autiste facilement. Oui, je vois.
Alors exactement.
Je rappelle juste que vous avez écrit une excellente BD sur le sujet qui s'appelle La différence invisible, que je conseille à nos auditeurs. Je l'ai lu moi-même et je l'ai beaucoup aimé. Et vous avez aussi écrit Dans ta bulle, paru aux éditions Marabout en avril 2018, où vous parlez justement de vos sujets de thèse et de vos rencontres avec des adultes autistes sans déficience intellectuelle.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Julie Daché, et j'espère pouvoir venir à votre conférence.